France Culture. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Une émission préparée avec Léa Capuano, Joséphine Reinhardt, Barthélémy Gaillard, Gwendoline Troiano et Antoinette Benoît. Réalisée par Cassandre Puel et à la technique ce matin, c'est Jean-Guilain Meige. À 11h20, on retrouve la table ronde d'actualité co-animée avec Marc Sémo, notre partenaire du journal Le Monde. Bonjour Marc.
Bonjour Mélanie.
La nation ne se rendra pas, à marteler le guide suprême dans sa dernière intervention diffusée à la télévision d'État. Et c'est pourtant bien l'avenir du régime iranien qui est en jeu une semaine après le début de l'opération Rising Lion menée par Israël le 13 juin. Jusqu'à quel point les structures politiques et militaires, et en particulier les gardiens de la révolution, sont-ils affaiblis et menacés par la guerre? Nous en discuterons avec nos invités, le journaliste Armin Arefi, pardon, et la chercheuse Sophia Maroug, qui nous rejoindront dans une vingtaine de minutes. Et pour commencer, place au retour de terrain.
On ne peut pas se laisser faire. On doit être capable de se défendre. C'est presque un devoir. Ici, c'est chez nous aussi.
On est l'un des plus gros débats politiques en ce moment. C'est franchement désagréable et c'est inquiétant. Mais on fait ce qu'on peut, on va dans la rue et on manifeste.
Bonjour Julie Jameau.
Bonjour Mélanie.
Vous êtes journaliste à l'AFP, co-réalisatrice avec Rémi Vorano du reportage Arte « Être trans et résister sous Trump » dont on vient d'entendre un extrait. Nous sommes dans la ville de Tulsa, en Oklahoma, au printemps dernier. Des personnes de la communauté transgenre se sont rassemblées pour dénoncer les atteintes à leurs droits depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Suppression des aides publiques pour les soins d'affirmation de genre, interdiction de service dans l'armée, disparition des programmes promouvant la diversité. Si certaines de ces mesures sont contestées dans les tribunaux, l'offensive du président contre ce qu'il appelle l'idéologie de genre est d'une ampleur sans précédent, semant la peur mais aussi la colère dans la communauté. Et vous recueillez par exemple le témoignage de Jessie, 19 ans, qui participait à la manifestation à Tulsa et qui vous confie craindre devoir mettre sa vie sur pause. C'est-à-dire
que Jessie l'a réalisé au cours de l'adolescence qu'il était un homme. Et à partir du moment où il y a cette réalisation, le corps ne correspond pas à ce qu'ils savent être, à ce qu'une personne trans sait être, à ce qu'elle est. Et ça s'appelle la dysphorie de genre. Et c'est très difficile de se réveiller tous les matins en ayant un corps qui ne correspond pas à ce qu'on est, ou d'être traité par les autres sur une identité qui n'est pas la sienne. Comme Jessie, il habite en Oklahoma, c'est l'un des États républicains les plus difficiles, où c'est déjà difficile d'être trans depuis longtemps, bien avant Trump. Et donc ce dont il parle, c'est qu'il aimerait faire une opération d'ablation des seins, et que en Oklahoma, ça va être très très difficile d'y arriver, donc il va probablement devoir partir, et surtout devoir attendre de pouvoir partir pour faire cette opération qui lui tient à cœur.
Jessie est déjà sous traitement hormonal, il prend de la testostérone depuis plusieurs années, quelques temps. Est-ce que l'accès à ce traitement hormonal est compromis ?
Pour les adolescents, oui. Pour les personnes de moins de 18 ans, oui. Alors, pour les personnes de plus de 18 ans, peut-être un moment aussi. Pour l'instant, c'est surtout les mineurs. Et d'ailleurs, Jessie, il aurait voulu commencer avant, mais sa mère, pour ne pas prendre de risque, lui a dit « Écoute, on va attendre que tu aies 18 ans pour commencer la testostérone. » Donc déjà, le fait de mettre sa vie entre parenthèses avait commencé avant, quoi.
Vous évoquez la mère de Jessie, c'est l'une de ses soutiens, et sa mère, depuis 6 mois, depuis l'arrivée ou le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, pour ne pas se laisser submerger par les discours de haine, les discours masculinistes également qu'il y a sur les réseaux sociaux, elle a décidé, elle, d'agir en militant sur les réseaux sociaux. De quelle manière, quel type de message envoie-t-elle à ses 100 000 abonnés sur TikTok ?
Elle leur envoie de l'amour. Avant tout, de l'amour, du soutien. Jenny a toujours été très militante. Elle vient d'une famille plutôt religieuse, plutôt à droite. Mais elle-même a fait ses propres choix dans sa vie adulte. Donc, elle a toujours été dans le soutien des minorités, des personnes oppressées. Et avec son fils, elle a embrassé la cause des personnes trans. Et donc, c'est beaucoup de soutien sur TikTok, sur Instagram, et aussi parfois des messages plus en colère contre sa famille, contre le gouvernement, contre toutes les autorités qui remettent en cause leurs droits, et contre tous les discours masculinistes, tous les animateurs de podcasts masculinistes qui répandent la haine et toutes sortes de désinformations sur les personnes trans.
Elle vous montre l'extrait d'une vidéo où elle s'en prend effectivement à ses proches qui ont voté Donald Trump et elle leur dit qu'elle ne leur pardonnera pas. Elle envoie de l'amour, mais elle envoie aussi des messages de colère et de détermination.
Oui. Elle le dit, moi je vais répandre l'amour parce que la haine prend toute la place et je vais répandre l'amour, mais je suis pas toujours sympa. Il y a des moments, je craque aussi. Il y a des moments, c'est dur. Elles animent un podcast avec une amie à elle. Elles se relaient. À un moment, il y en a une qui s'énerve. À un moment, c'est l'autre. Mais là, oui, c'est vrai que c'est très dur avec sa famille. Le père de Jessie n'accepte pas la transition. Ce côté de sa famille ne l'accepte pas. Et même elle, dans son travail, la plupart du temps, ses clients sont des magas du parti de Trump qui lui répètent des choses à longueur de journée. « Ah non, mais moi, j'ai pas de pronom. Moi, je suis née femme, je resterai toujours femme. » Alors que bon, elle vend des camping-cars, enfin, il n'y a aucun rapport. Mais les gens sont tout le temps dans cette proclamation. Et donc, c'est difficile, elle craque par moment.
Jessie peut compter sur sa mère, il peut compter aussi sur son avocat qui l'aide, par exemple, pour faire changer ses papiers d'identité.
Quand nous avons la chance d'obtenir ces documents, il ne s'agit pas seulement de morceaux de papier. Ce sont des vies qui changent. On assiste à des moments où la vie des gens se transforme. C'est un grand honneur de se dire qu'on a changé la vie d'une personne parce que c'est tellement fondamental en termes d'identité et dans l'existence d'un être humain. C'est une question de dignité, d'être reconnu pour qui on est. Les gens ne peuvent pas comprendre ça. Nous ne pouvons pas comprendre. Parce que notre identité à nous, elle est acquise. Elle n'est jamais contestée.
Joshua Payton, l'avocat de Jessie, extrait de votre documentaire Julie Jameau. Ce qu'explique aussi l'avocat, c'est qu'entreprendre aujourd'hui une démarche pour changer ses papiers d'identité, ça comporte un risque, celui de se retrouver sur des listes. Et donc c'est un dilemme qui se pose de plus en plus aux personnes trans aux États-Unis.
La raison principale pour laquelle beaucoup de personnes m'ont parlé mais ne voulaient pas être dans le documentaire, c'est qu'ils ont peur qu'il y ait des créations de grandes listes noires dans le pays et qu'un jour on les arrête, on les déporte, on les met dans des camps. Enfin, c'est vraiment ce genre de peur qui existe aux États-Unis, notamment parce que il y a des déportations d'immigrés qui se passent plus du tout selon les règles de l'état de droit. Donc les gens se disent, c'est possible, on est peut-être les prochains, les personnes trans. Il y a aussi les parents qui ont peur d'être criminalisés s'ils ont aidé leurs enfants à obtenir des hormones. Donc les gens vivent dans la peur. À ce stade, on ne sait pas s'il y a une liste noire ou pas aussi. Mais c'est la peur qui est répandue et qui rend la vie tout le temps difficile au quotidien, quoi.
Et d'ailleurs, les avocats expliquent que défendre la cause des trans, c'est rare dans le métier. Il n'y a pas beaucoup, peut-être encore moins en Oklahoma. Qu'est-ce que eux, en tant qu'avocats, est-ce qu'ils encourent des risques, si oui, lesquels, en tant qu'avocats?
Déjà, ils ont dû s'équiper en sécurité, ce qui n'était pas le cas avant. Caméras de vidéosurveillance sur leur maison. Ils n'avaient pas du tout envie de vivre comme ça, mais ils estiment qu'ils n'ont plus le choix.
Parce qu'ils ont fait l'objet de menaces physiques à leur domicile ou...
En fait, c'est les médecins et les avocats se retrouvent face à la menace du doxing, qui est déjà eu avant. Le doxing, c'est quand des personnes qui vous en veulent mettent votre identité, votre adresse, votre numéro de téléphone sur des réseaux sociaux pour que les gens vous ciblent ensuite. Et donc c'est cette menace-là principalement à laquelle ils font face, et puis financièrement tout simplement. À une époque, Josh et sa femme s'occupaient de divorce, ce qui leur rapportait assez bien. Puis après, ils avaient pris un travail encore plus lucratif, et quand ils ont décidé de s'investir entièrement dans la défense des personnes trans pour qu'ils puissent obtenir leur papier d'identité, ils ont perdu 40% de revenus, ils vivent dans la menace. Ils prennent un risque.
Et ça devient donc un engagement militant et non plus seulement un métier. Alors, quel risque prend-on pour soi-même, pour ses enfants, en les soutenant dans leur transition? C'est aussi la question que se pose Geneviève, et là on est dans le Wisconsin, parce que très concrètement, aujourd'hui, aux États-Unis, aider des mineurs dans une transition, notamment avoir accès aux hormones, vous le disiez, c'est une infraction pénale? C'est devenu une infraction?
Non, pas encore. Il y a un décret il y a eu plusieurs décrets présidentiels qui condamnent, qui disent que c'est criminel et des abus, de la maltraitance. C'est pas encore une loi. Donc ça va dépendre de s'ils peuvent voter une loi, puis il y a aussi la jurisprudence. Donc il y a une loi dans le Tennessee qui date de 2023, donc état très, très républicain, très rouge le Tennessee. C'est une loi qui interdit les hormones et les bloqueurs de puberté pour les moins de 18 ans. Elle a été contestée dans les tribunaux et s'est remontée jusqu'à la Cour suprême. Et là, il y a deux jours, la Cour suprême l'a validée, a dit que cette loi était constitutionnelle parce que, selon eux, il y a encore un débat sur la pertinence de ces traitements médicaux. Donc, tant qu'il y a cette Cour suprême-là, même si ça met un certain temps de remonter jusqu'à elle, on sait dans quel sens elle va. Donc, c'est un risque. Pour l'instant, c'est pas une infraction pénale, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur la peur. Énormément de cliniques se conforment à l'avance, avant même que ce soit criminel. C'est ce qui rend la vie encore plus difficile aux personnes concernées.
La fille de Geneviève a 13 ans, elle s'appelle Jasmine, elle est actuellement sous bloqueur de puberté. Geneviève craint qu'on puisse lui retirer la garde de sa fille, c'est ça qui peut être en ligne de mire, concrètement, pour une famille avec un enfant mineur trans.
Elle craint d'être jugée ou qu'on lui retire de la garde de sa fille ou qu'elle soit déportée. Elle craint toutes sortes de... Ce qu'elle dit, c'est il se passe des choses aux États-Unis que j'aurais jamais cru possible avant. Et quand elle dit ça, elle parle des déportations d'immigrés massives. Et donc elle se dit s'il n'y a plus d'état de droit, tout est possible et on sait très bien ce qu'ils pensent des personnes trans. Donc on met ça tous ensemble. Elle dit je ne sais pas ce qui peut se passer. Et je ne veux pas prendre plus de risques qu'on en prend déjà.
Et donc Geneviève a pris une décision radicale pour elle et pour sa fille, l'exil.
C'est difficile de trouver le bon endroit. Il faut non seulement un pays avec l'accès à l'accompagnement médical nécessaire, mais il faut aussi que ce soit possible d'immigrer là-bas en tant qu'Américaine et que le niveau de vie soit abordable. Je n'aurais jamais imaginé que j'allais passer l'année à organiser tout ça. Je me sens coupable de ne pas rester pour résister, mais j'ai aussi l'impression que j'ai déjà beaucoup donné. J'ai milité pendant la campagne, j'ai fait du porte-à-porte. Maintenant, je dois d'abord penser à ma famille, et quand ça ira mieux, je reviendrai.
C'est en Uruguay que Geneviève et Jasmine, et je précise que ce sont des noms d'emprunt, projettent de refaire leur vie. Comment ont-elles fait ce choix ?
Je crois que Geneviève, elle a fait énormément de recherches sur les groupes de parents qui sont déjà partis, notamment sur Facebook, ceux qui veulent partir. Elle a longtemps envisagé la France. On s'est beaucoup parlé au moment où elle prenait sa décision. Mais elle s'est dit qu'en France, c'était trop incertain, les droits des personnes trans et des adolescents trans, que ça pouvait changer, que ça pouvait revenir en arrière. Et en termes d'immigration, c'était aussi assez compliqué. Elle s'est demandé si elle pouvait obtenir l'exil, mais non, c'est pas considéré comme un motif pour être réfugié. Et le Canada, il faut être très compétent dans la tech, par exemple, et ça serait beaucoup plus proche, évidemment, plus simple. Et donc elle a choisi l'Uruguay parce que, comme elle le dit, entre le niveau de vie, le fait que les droits des personnes trans ne sont pas remis en cause depuis longtemps, c'est un pays stable politiquement. Et elle a trouvé une grosse communauté, elle a trouvé plusieurs groupes Facebook de parents qui se sont installés là-bas. Et elle s'est dit, mais voilà, là-bas, on va immédiatement trouver des personnes qui vont nous accueillir, avec qui on va se comprendre, quoi.
On sent qu'il y a de la culpabilité dans ce départ aussi.
Oui, pendant la campagne, elle a fait campagne, elle est allée faire du porte-à-porte pour Kamala Harris. C'est une personne engagée politiquement qui milite, mais là elle se dit je peux plus prendre le risque de rester, c'est ma fille avant tout, quoi.
Et pour ceux qui restent, quelles sont les voies possibles de résistance? Pour y répondre, vous vous dirigez à San Francisco, en Californie. Vous y rencontrez pour votre documentaire, Julie Jameau, des artistes, des militants qui cherchent eux aussi leur manière de lutter contre le recul de leurs droits. Il y a par exemple Joey Tiger, qui est un homme trans et artiste de cirque. Et lui, il a créé une pièce qui s'intitule Spectrum, qui avait déjà été créée en 2016 en réaction à la première élection de Donald Trump. De quoi parle ce spectacle?
Alors, c'est un spectacle qui varie à chaque fois. Ce sont des arts aériens, des arts du cirque, de cabaret, avec des artistes de la communauté LGBT, très principalement. Et ce sont des numéros qui sont soit engagés, soit dans l'humour, soit dans le dramatique, autour de la question d'être trans ou d'être LGBT ou d'être différent. Et les numéros varient à chaque fois, mais il l'a créé en 2016 en se disant, quand 2016, quand Donald Trump a été élu pour la première fois, et il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? Bon, eh ben, la seule chose que je sais faire, c'est ça, c'est l'art, c'est le cirque. Et donc, je vais monter un spectacle, et puis on va lever des fonds, et on va aider une association, il y a quelque chose de positif qui va en sortir. Et il s'était dit à l'époque, j'espère que j'aurai jamais à le refaire, voilà, ça c'est fait. Et puis en fait, il y a eu la pandémie, il y a les lois qui ont commencé à être détricotées dans les États républicains. Et donc, tous les 1 ou 2 ans, ils disent « Non, bah, faut que je le refasse, il faut que je le refasse, il faut que j'aide telle autre association dans tel autre État. » Et donc là, c'était sa première réaction après la réélection de Trump. Je lui avais parlé déjà en novembre. Et c'était la plus grosse édition jusqu'à présent. Ça permet de lever des fonds. Mais ça permet aussi aux personnes de se retrouver ensemble, de se soutenir, de crier un bon coup et de se dire on est ensemble et on s'entraide et on va tenir bon.
D'ailleurs, la première fois que vous rencontrez Joy the Tiger, c'est pour un autre reportage pour l'AFP. Et justement, c'est sur une initiative mise en place par la communauté queer de San Francisco qui s'est inspirée d'un bar gay de New York. Et c'est un cri cathartique, cette initiative. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce que ce cri
Et on est juste après l'élection de Donald Trump l'année dernière, et sur les réseaux sociaux, toute la communauté LGBT est vraiment en détresse, quoi, en demandant ce qui va leur arriver. Et cette boîte gay qui fait beaucoup de spectacles de drag queen à San Francisco décide de suivre l'exemple d'une boîte similaire à New York qui organise un cri cathartique à minuit, jeudi, vendredi, samedi, juste après l'élection. En mode, quelqu'un monte sur scène et leur dit « Bon, là, je sais pas vous, mais moi, j'ai envie de crier et je crois que vous aussi. » Et tout le monde crie ensemble et c'est très libérateur. C'est un défouloir, ça fait du bien de se sentir avec tout le monde dans ce même moment de « on n'en peut plus ».
On voit sur ce passage piéton les couleurs du drapeau trans, du rose, du blanc et du bleu. Ça marque l'entrée dans le quartier trans. On l'a créé pour permettre à la communauté trans d'obtenir les choses dont elle a besoin. L'accès à des logements abordables, à des emplois, à des lieux publics qui les respectent, qui célèbrent notre histoire. Ça permet aussi d'organiser des événements pour la communauté.
Hi, how are you?
Nous sommes toujours à San Francisco, dans le quartier trans de la ville cofondée par Honey Mahogany qu'on vient d'entendre. Que trouve-t-on dans ce quartier trans de San Francisco? Quelle protection une ville ou un quartier peut-il offrir quand les attaques se font au niveau fédéral?
C'est avant tout symbolique. C'est un quartier où donc les passages piétons sont peints en bleu et rose, qui sont les couleurs du drapeau trans. Il y a des fresques artistiques pour la cause aussi. Et c'est aussi l'endroit où se trouve le café Compton, où a eu lieu la première rébellion de la communauté LGBT, début des années 60, je ne me souviens plus la date. Avant les émeutes de Stonewall à New York, il y a eu celle dans ce café où se trouvaient des personnes trans. La police les raquettait pour c'était des pots de vin. Et un jour, la communauté s'est rebellée, en tout cas dans ce café. Donc ça a fait des émeutes. Et donc c'est pour honorer aussi cette histoire que ce quartier a été un peu sanctuarisé. Concrètement, c'est pour permettre des programmes, pour aider les personnes à trouver des logements, notamment quand des personnes arrivent à San Francisco, parce que c'est une ville sanctuaire où... c'est plus facile d'être trans à San Francisco que dans la plupart des endroits aux États-Unis. Donc il y a des programmes d'aide au logement, d'aide à fonder son entreprise pour les personnes trans. Mais le quartier, il accueille tout le monde. Il n'est pas, il n'y a pas des barbelés autour avec c'est que les personnes trans. Non, c'est très ouvert. C'est plus symbolique qu'autre chose.
Et on peut en voir les images dans votre documentaire « Être trans et résister sous Trump ». C'est à visionner sur le site de Arte. On fera un lien sur la page de Culture Monde. Merci beaucoup, Julie Jameau, d'être venue dans le Retour de terrain. Je cite aussi Rémi Vorano, votre co-réalisateur. Merci beaucoup.
Merci.
Mmh, mmh, mmh.
black man, I am the truth, I am the roots.
I am a black man,
black man.
I am
a black man, I am the roots, I am the truth.
I am a black man from affinity to infinity.
I am a black man, I am a black man you scared to clap for. I am a black man who likes metaphor. I am a black man who's anti-war. I am, and the black man that I am is quite sure. I am not pure, African fruits mixed with Cherokee juice. I am a black man with red clay roots. Arkansas, I am, black man speaking my I am truth. I am not trying to recruit youth for nothing but revolution. Solutions to overstand the I am they be. Unlike me, I am a man and yet I am as unique as you. I am the man who will stand for my truth. I am a black man educating our youth. Sonnets to Ebonics, Othello in the East. Oh, I am the sum total of your hope. I am a black man who sometimes can't cope with haters who hate on knowledge. I am a black man who says go to college. Ignorance should be abolished. But the greatest teacher is a preacher whose mirror smiles to him and says, yo, I am a black man.
I am a black man.
Le groupe de rap gay, Black Men, pardon, je vais y arriver, cette chanson qui s'intitule I Am, sortie en 2004 par le groupe californien Deep, 10 collectifs qui participèrent à la fondation du Peace Out, le premier festival hip-hop LGBT aux États-Unis. Vous écoutez Culture Monde, place à présent, seconde partie de l'émission, la table ronde d'actualité, direction l'Iran.
France Culture. Culture Monde, Mélanie Chalandon.
La nation iranienne s'oppose fermement à une guerre imposée, tout comme elle s'opposera fermement à une paix imposée. Cette nation ne se rendra jamais à l'imposition de qui que ce soit. Dire au peuple iranien de se rendre n'est pas une déclaration raisonnable. Ceux qui comprennent la sagesse de la nation iranienne, ainsi que l'histoire et la culture de l'Iran, ne prononceraient jamais de tels mots. Se rendre à qui ? La nation iranienne n'est pas une nation que l'on peut contraindre à se rendre.
La vidéo a été diffusée ce mercredi 18 juin à la télévision d'État en Iran. Apparaissant face caméra, le visage dur et le décor austère, le guide suprême Ali Khamenei s'est montré inflexible quant aux pressions américaines, l'enjoignant à la reddition. La nation ne se rendra pas, a-t-il martelé. Et c'est pourtant bien son avenir que le régime iranien joue dans cette guerre ouverte avec Israël, alors que plusieurs commandants des forces armées ont été visés et éliminés, et que Benjamin Netanyahou a explicitement dit que la mort de l'ayatollah Khamenei mettrait, je cite, « fin » au conflit, le corps des gardiens de la Révolution, pilier de l'appareil militaire et policier du pays, apparaît comme une cible prioritaire. Le régime iranien à l'épreuve de la guerre, on en discute avec nos invités. Armin Arefi, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, vous êtes grand reporter au journal Le Point, spécialiste du Proche et Moyen-Orient. À la une du dernier numéro du journal Le Crépuscule d'Emola, en kiosque actuellement. Et puis je signale votre documentaire signé avec Julie Leras pour Arte, Les gardiens de la Révolution, maître de l'Iran, dont la diffusion a été avancée.
Au 1er juillet.
Au 1er juillet.
Exactement.
On mettra un lien en avance sur le site. Et à vos côtés, Sophia Marouk, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, vous êtes docteur en histoire à Sorbonne Université, spécialiste de l'Iran et du corps des gardiens de la Révolution. Votre thèse portée sur cette thématique. Et à nos côtés, bien sûr, Marc Semo pour co-animer l'émission. Et on commence avec votre édito, Marc.
Merci Mélanie. Alors, les dictatures ne survivent que très rarement aux déroutes militaires. Alors certes, ce n'est pas immédiat, parce qu'un peuple ne se soulève pas sous les bombes, dont la priorité est d'abord de survivre, mais l'heure des comptes arrive très vite après. On l'a vu par exemple à Belgrade en 1999, quand deux ans après les bombardements de l'OTAN pour arrêter le carnage au Kosovo, Slobodan Milosevic a été renversé par la rue. Alors l'évidence de la défaite est là pour la monarchie, alors que les Israéliens ont une totale maîtrise du ciel au-dessus de l'Iran. Si les négociations reprennent, notamment grâce aux Européens, elles entérinent cette nouvelle donne et le régime ne pourra qu'accepter la fin de son programme d'enrichissement d'une manière ou d'une autre, ce qui équivaut de fait à une capitulation. Alors, ce régime a dépensé des milliards pour ce programme, subi des dures sanctions internationales, a aidé des proxys dans tout le Moyen-Orient pour tenter depuis 46 ans d'anéantir ce qu'il appelle l'entité sioniste. Il s'est montré incapable de développer le pays et de protéger son propre peuple. Une bonne part des Iraniens honnissent ce régime, comme il l'avait montré lors des immenses manifestations en 2022 au cri de « Femme, vie, liberté » après la mort de Mahsa Amini pour un voile mal porté. Nombre d'Iraniens avaient aussi célébré la mort du sanguinaire président Ebrahim Raïssi dans un accident d'hélicoptère. L'opposition semble trop faible pour représenter une alternative, mais les choses peuvent aller très vite. On peut espérer qu'au sein même du régime, des réformateurs imposent au guide, ou après le guide, un abandon de la course à la bombe et un régime un peu différent. On peut craindre aussi un coup d'État des gardiens de la Révolution pour imposer un nouveau régime encore plus nationaliste et répressif. Tous les scénarios sont pour le moment possibles, y compris celui du chaos, mais il y a bien malgré tout aujourd'hui, malgré les peurs légitimes, la réalité d'un espoir.
Alors avant de se plonger dans l'après, puisque restons un instant sur le maintenant, je le disais, plusieurs commandants et hauts gradés des forces armées du corps des gardiens de la Révolution ont été tués dès les premiers jours de l'opération israélienne. Sophia Marroug, le corps des gardiens de la Révolution est-il une institution que l'on peut détruire en la décapitant? Quelles sont ses capacités de survie à la mort de ses commandants?
On peut la détruire symboliquement avec des figures de proue qui ont été les chefs militaires qui ont été assassinés ces derniers jours parce que ils appartenaient à l'une des premières générations du corps des gardiens de la Révolution qui a été mis en place en 79 donc. Et c'était des personnalités très intégrées dans l'appareil aussi de renseignement, qui avaient une expérience des guérillas urbaines, de la guerre Iran-Irak aussi, et qui ont vécu absolument l'entièreté du régime islamique depuis 79. Maintenant, il reste que les gardiens de la Révolution sont aujourd'hui une organisation tentaculaire, aussi bien impliquée dans les affaires militaires que les affaires politiques ou économiques, et culturel également. Donc, on est environ à 600 000 personnes aujourd'hui recensées dans le corps des gardiens de la Révolution. Donc, on peut tuer les chefs de file, mais est-ce qu'on va réussir à détruire l'entièreté d'une organisation qui s'est fondée quand même depuis plus de 40 ans? Je ne pense pas.
Il y a une comparaison qu'on a vue arriver dans la presse, chez les commentateurs, c'est celle avec le Hezbollah, Armin Arefi, à savoir justement cette stratégie de décapiter au plus haut de l'organisation les chefs d'une milice. Et jusqu'où la comparaison peut-elle être intéressante avec les gardiens de l'évolution, ou pertinente pour essayer de comprendre à quel point ils sont aujourd'hui affaiblis par l'opération israélienne?
Comme l'a dit Madame Marroug, il y a quand même derrière le commandement militaire des gardiens de la Révolution des hommes qui sont aujourd'hui plus de 600 000, d'ailleurs qui ne sont pas tous en habit militaire. Donc ces gens-là feront, quoi qu'on en dise, partie de l'avenir de l'Iran. Alors est-ce que ça sera sous le commandement du guide suprême, sous un autre commandement? Là est la question. Maintenant, je pense que votre référence au Hezbollah est extrêmement intéressante, et il est dingue que, c'est ce que me disait récemment un expert des gardiens, que ces mêmes gardiens, que le régime iranien n'aient pas utilisé l'expérience de ce qui est arrivé au Hezbollah pour se préparer. Parce qu'on assiste aujourd'hui en Iran exactement à ce qui s'est passé au Liban à une échelle beaucoup plus grande, à savoir le commandement militaire des gardiens de la Révolution décapité, le commandement des forces armées iraniennes, et puis désormais, maintenant qu'Israël a le contrôle du ciel iranien, ils continuent, et ils vont continuer au coup par coup, à éliminer, assassiner, selon Téhéran, le moindre chef, le moindre directeur. Donc le coup porté est terrible, et ils n'ont aucun intérêt à arrêter. Maintenant, ce qui est fascinant, c'est que c'est le message envoyé en fait par les Israéliens aux Iraniens, à savoir qu'ils ne sont pas capables de défendre leurs propres membres, leurs propres commandants, leur propre pays. Si bien qu'aujourd'hui, effectivement, le débat porte sur le sort du guide, mais il est fort à parier que les services de renseignement israéliens savent exactement où ils se trouvent, de même que les services de renseignement américains. La seule différence étant que ces derniers, les Américains, pour l'instant, n'ont pas l'ordre politique d'abattre l'ayatollah Khamenei, ce qui serait un coup, alors fatal, je ne sais pas, mais terrible pour le régime, car c'est véritablement la pierre angulaire de la République islamique. Maintenant, ce qui est également frappant, c'est tout de même la faiblesse, déjà, de la défense du territoire iranien par les gardiens, avec l'élimination préalable, la destruction de l'ensemble, en tout cas d'une grande partie des forces, des batteries de défense anti-aérienne iranienne, mais également la faiblesse, malgré tout, de la riposte, des représailles, certes, qui font des victimes, y compris et notamment civiles en Israël, bien moins nombreuses qu'en Iran, mais victimes, bien sûr, tout de même. Aujourd'hui, au moins 24 Israéliens qui ont été tués, mais il faut quand même rappeler que le programme balistique iranien, ce qui était une des grandes forces du régime, en tout cas présentée comme telle, aujourd'hui est quand même grandement interceptée à plus de 80% par le dôme de fer israélien, la défense anti-aérienne israélienne. Donc on voit quand même un régime qui est dans l'incapacité d'empêcher aujourd'hui le rouleau compresseur militaire israélien de s'abattre sur lui. Voilà pourquoi Israël n'a aucun intérêt à arrêter ce qu'il est en train de mettre en place, et quelle que soit l'issue des négociations actuelles en cours à Genève.
Marc Semo ?
Oui, alors ce régime est pyramidal, hiérarchisé. On voit les évidentes fêlures. Parmi les survivants, au niveau des chefs, y a toujours le suspect qui a balancé les informations qui ont permis d'eux. Donc il y a une paranoïa générale, y compris parmi ceux qui sont encore en place. Ce n'est pas facile de remplacer les hommes. On l'a vu quand Rassam Soleimani avait été tué, qui était le chef mythique du gardien de la révolution de la force Al-Quds, en 2020 à Bagdad. Bon, il a été remplacé par un autre chef, mais ça, c'était pas du tout la même chose. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas, malgré tout, face à un régime qui est en train de se fissurer et d'imploser petit à petit, même si, pour le moment, Ali Khamenei est encore là, et même si on peut imaginer, à un moment ou à un autre, qu'il lui arrive quelque chose.
Sophia Marouk.
Oui, il y a une variable qui est très importante et qui est très peu énoncée quand on parle des gardiens de la Révolution, c'est qu'aujourd'hui c'est un corps extrêmement fracturé aussi du point de vue politique. On parle souvent de principistes, donc ce sont les néo-fondamentalistes qui sont fondés sur les principes de la République islamique, ce serait l'ultra-droite iranienne aujourd'hui.
Mais il y a une dure des gardiens.
Voilà. Et donc, les gardiens seraient majoritairement principistes. Ils le sont toujours, en effet. Mais aujourd'hui, le système est tellement morcelé et il y a eu tellement de règlements de compte à l'intérieur qui durent, en fait, depuis les années 70 puis 80, qu'aujourd'hui, il y a des coups bas, des fractures, des dissensions internes et des dissensions du point de vue politique aussi, où certains gardiens ont pris publiquement la parole. Alors, ils sont très peu nombreux, mais ils existent, contre cette répression qui était en train de se mettre en place depuis 2009. Ils sont encore minoritaires, mais ils existent. Et quand il y a eu, par exemple, l'assassinat d'Ismaël Haniyeh du Hamas à Téhéran en juillet 2024, le New York Times, à cette époque, avait déjà parlé de gardiens de la Révolution qui avaient vendu la mèche aussi aux services de renseignement israéliens. Et il faut en tenir compte, parce que aujourd'hui, ce corps est quand même fracturé.
Est-ce que leur lien avec le guide suprême, et je renvoie un article de Jean-Pierre Perrin paru récemment dans Mediapart, qui explique historiquement l'alliance qui a été forgée entre Ali Khamenei et les gardiens de la Révolution qui forment aujourd'hui la colonne dorsale du régime. Est-ce que ce lien-là pourrait être remis en question ? Vous parliez d'un corps fracturé. Est-ce qu'on voit apparaître des divisions, des critiques qui pourraient, et là j'arrive dans la dimension prospective de cette discussion, laisser penser à une prise de pouvoir interne, une sorte de coup d'État à l'intérieur des institutions du régime. Est-ce que ce sont des questions qu'on se pose en tant qu'observateur, Sophia Marouk ?
Oui, c'est l'une des premières questions qu'on se pose quand on travaille sur les gardiens de la Révolution. Malheureusement, on n'a pas tous les sujets de ces dissensions. En revanche, on voit qu'elles existent et certaines voix se sont élevées, en effet.
Armin Arifi, sur cette question.
Comme l'a dit Mme Marouk récemment, l'élimination à Téhéran en août 2024, lors de l'investiture du président Pezeshkian, du chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, dans un immeuble appartenant aux gardiens de la Révolution, illustre bien ces fissures qui existent actuellement au sein de ce corps armé. Jusqu'ici, on connaît ces fractures qui se sont, comme vous l'avez justement dit, exprimées notamment après la répression du mouvement vert de contestation en 2009, il y a déjà 16 ans, on disait qu'il y avait des divisions. Mais ce qui était quand même notable au niveau des décisions qui avaient été prises, c'est qu'il y avait eu une purge effectuée au sein du commandement des gardiens de la Révolution, notamment autour de l'année 2019, qui avait abouti au départ des gardiens, on va dire, de la première heure, ceux qui avaient fait leurs armes durant la guerre Iran-Irak aux côtés de l'Ayatollah Khomeini, au profit de gardiens plus jeunes, mais beaucoup plus idéologisés et loyaux au guide suprême Ali Khamenei. Si bien que ceux qui étaient aujourd'hui dans son entourage proche, et ceux donc qui ont été tués par l'armée israélienne, ou plutôt par le Mossad, étaient totalement alignés sur le guide suprême et étaient choisis davantage pour leur loyauté que leur compétence, même si ils faisaient partie, on va dire, de la fine fleur militaire de l'Iran. On avait jusqu'ici la tentation de penser que le grand moment des gardiens, ou pas, mais en tout cas la possibilité d'un coup d'État pourrait arriver au moment de la disparition du guide suprême iranien, qui a 86 ans, qui a été soigné pour un cancer, qui est toujours en vie malgré tout ce qu'on peut dire, mais qui est quand même, qui n'a pas de longues décennies de vie devant lui. Sauf que aujourd'hui, peut-être que le moment est parfait. Parfait, si je peux me permettre, en tant que voilà observateur de l'extérieur, parfait justement pour que ce changement, ce coup d'État, ce changement peut-être même idéologique au sein des gardiens s'exprime davantage publiquement, que ce soit par des prises de position ou alors par un coup d'État. Mais tout dépend de l'avenir du guide. Jusqu'ici, le guide servait en fait de couverture parfaite aux gardiens de la Révolution pour donner au régime cette légitimité religieuse et servir d'une certaine manière de porte-feu par rapport à tout ce que vivait le régime. Cela pourrait changer, mais il est encore trop tôt pour savoir exactement ce qui peut se passer, parce qu'aujourd'hui, on a quand même le sentiment qu'avec l'opération israélienne, le destin des gardiens est quand même intimement lié à celui du guide suprême et du régime.
Marc Semo.
Justement, s'il y avait un coup d'État, parce qu'on ne peut pas exclure aussi que le régime survive, parmi les rares dictateurs qui ont survécu à des défaites militaires, il y avait le cas de Saddam Hussein, avec un régime qui est devenu encore pire après la première guerre du Golfe. Mais s'il y avait donc un coup d'État, les gardiens de la Révolution, ça donnerait une république islamique encore plus nationaliste, agressive, ça donnerait quoi, a priori ?
Déjà, est-ce que ça donnerait une république islamique ? Est-ce que le mot islamique ne serait pas changé ? Est-ce qu'on ne serait pas sur un scénario beaucoup plus à l'algérienne ? Un scénario, pas un scénario, mais en tout cas une réalité à l'algérienne, avec ou à l'égyptienne, ou avec des militaires qui, d'une main de fer, avec un nationalisme exacerbé, et Dieu sait qu'il est important en Iran, dirigent le pays. C'est une possibilité. Maintenant, ce qu'il faut rappeler en parallèle, en face, c'est que les gardiens de la Révolution ont été tellement démonétisés au fil des années au sein de la population iranienne qu'aujourd'hui, beaucoup d'Iraniens avec qui je suis en contact, même si je ne suis plus en contact avec eux depuis 24 heures puisque Internet est bloqué, se réjouissaient en secret, enfin d'ailleurs, non, ouvertement, que plusieurs des responsables de la répression gouvernementale ne soient plus de ce monde. Donc effectivement, aujourd'hui, quand on regarde sur le terrain en Iran, quelles peuvent être les alternatives, notamment, quelles peuvent être d'une certaine manière les gens qui ont des armes et qui pourraient prendre la place des mollahs ? On pense à un coup d'État des gardes de la Révolution. Et c'est pratiquement tout. Sinon, on a des groupuscules kurdes avec certaines tentations, velléités séparatistes à l'ouest, des groupes sunnites plus ou moins fondamentalistes, soutien des Baloutches, donc dans le sud-est de l'Iran, et c'est tout. Il n'y a pas d'autres véritables alternatives. C'est
Armin Arifi, pardon, juste une précision. Qu'est-ce que vous entendez par démonétiser ?
Démonétiser, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus légitimes par la population, et ils font, aux yeux d'une grande majorité des Iraniens, même si je ne peux pas parler à leur place, partie du problème et non pas de la solution.
Sophia Marouk, pourquoi le régime ne survivrait-il pas à la mort du guide suprême, comme semble le penser Benjamin Netanyahou ?
Ce n'est pas une certitude, et justement il faut revenir à ce qu'est une république islamique d'Iran, c'est-à-dire que c'est une république qui est fondée sur le système de la velayat et fekir, et ça c'est très important parce que c'est la guidance du juriste religieux. Donc c'est le délégué de Dieu sur terre qui est aujourd'hui Ali Khamenei et qui est l'autorité politique de dernière instance en République islamique et le chef des armées. C'était l'ayatollah Khomeini de 79 à 89 et ensuite Khamenei qui est élu à vie, donc par un conseil des experts. Et aujourd'hui, si Ali Khamenei avait déjà préparé sa succession, on parle aussi de son fils Mojtaba Khamenei qui est souvent sur le devant de la scène. On sait qu'il est dans les affaires politiques et à la maison du guide, surtout depuis les années 2010, pour préparer la passation, parce qu'un homme de 86 ans, bien sûr, d'ailleurs prépare aussi son héritier. Mais là, même si la velayet et fakir perdurent, on basculerait peut-être sur un système politique plutôt fondé sur l'hérédité. Et là encore, il y a beaucoup d'opposants à ce type de système. Et d'ailleurs, on a une très bonne spécialiste qui s'appelle Eva Zahiri en France qui a travaillé sur les débats intellectuels et politiques autour de ce système de la velayet et fakir. C'est discuté et c'est débattu dans l'appareil intellectuel iranien. C'est discuté et même disputé par des clercs. Le clergé, par essence, n'a pas forcément à s'intégrer dans les affaires politique. Donc ça fait pas forcément consensus aujourd'hui en République islamique d'Iran.
Est-ce que les institutions politiques telles que le Parlement qui est élu, la présidence, même si l'on sait que le président a beaucoup moins de pouvoir politique que le guide, néanmoins, est-ce que l'existence de ces instances peut former une sorte de contrepoids interne au régime, assurer une transition politique qui permette de maintenir les instances en changeant certains principes fondamentaux que vous venez de rappeler, Sophia Marou, Armin Arifi?
Écoutez, pas à ma connaissance. L'exécutif iranien et le législatif agissent plutôt au service de la République islamique et du guide suprême que l'inverse. D'ailleurs, il était étonnant de noter que au moment où l'Iran était isolé sur la scène internationale, affaibli par le risque de frappe israélienne l'an dernier, le guide suprême avait sorti de son turban, d'une certaine manière, la candidature d'un réformateur, Massoud Pezeshkian, l'actuel président de la République islamique. Et d'ailleurs, il avait à cette occasion pris tout le monde de court parce que ce même Ayatollah Khamenei avait passé la dernière décennie à démonétiser, à exclure du jeu politique iranien les réformateurs. Pour ce qui est du Parlement, c'est pareil. On a un président du Parlement qui est un ancien gardien de la Révolution, M. Kalibaf, qui est quand même totalement inféodé au système, qui en fait partie. Maintenant, le rôle que pourrait jouer le Parlement dans la séquence actuelle, c'est de donner un vernis démocratique à des décisions stratégiques qui pourraient être prises, notamment par le guide suprême, la principale décision du moment étant de franchir le Rubicon et de passer ouvertement à la recherche d'une bombe atomique pour donner au régime sa dernière chance de survivre sur le long terme avec l'arme, donc de la bombe atomique et donc de la dissuasion.
Sophie Maroug.
Oui. Pour rejoindre ce que disait Monsieur Arifi sur ce vernis qu'est le Parlement, en effet, c'était déjà le cas depuis un certain nombre d'années. Le Parlement est un vernis, tout comme l'est le président de la République élu au suffrage, quand même, parce que
un suffrage universel.
Oui,
tout
oui.
Fait, voilà.
Et Pezeshkian était un petit peu la couverture réformiste idéale pour le guide suprême, qui était quand même affaibli. Et il faut rappeler quand même que les candidats qui sont autorisés à mener une présidentielle, leurs candidatures doivent être validées avant par un conseil.
Exactement. Même si, je pense, excusez-moi de vous interrompre, même si ce qui est très intéressant avec l'élection de Massoud Pezeshkian, c'est que entre deux mots et c'est-à-dire entre les deux mots, les Iraniens ont quand même choisi, en tout cas, une partie non négligeable de la population, la partie silencieuse, une partie de la partie silencieuse, de porter son choix sur Pezeshkian, car ils avaient vu les désastres de la candidature de Raisi. Pardon.
Oui, 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 mais Pezeshkian était aussi. Alors, on oublie souvent que Pezeshkian était quand même quelqu'un qui a participé à la guerre Iran-Irak en tant que médecin, alors pas avec les armes, mais en tant que médecin. Et ses réseaux de solidarité, les réseaux de solidarité de Pezeshkian pendant les années 80 était très lié au réseau du guide aussi. Donc c'est un réformiste ou réformateur, comme vous dites, Monsieur Arifi, mais c'est cette couverture réformiste qui était nécessaire pour engager ensuite des négociations. Et c'est ce vernis qui aujourd'hui ne fonctionne plus, mais qui a fonctionné un petit peu aussi au sein de la diplomatie française, qui croyait à une figure réformatrice. Parce que quand on a eu les élections présidentielles de 2020, quand Raisi a été élu, toutes les candidatures réformistes un peu populaires ont été exclues. Et on a fait exprès d'autoriser les candidatures réformatrices qui étaient totalement impopulaires. Donc il y a eu un changement de stratégie en 2024 de la part du guide suprême pour mettre ce vernis dont vous parliez.
Et les forces que vous évoquiez l'un et l'autre tout à l'heure de l'époque du mouvement vert de 2009, ce qu'on appelait les réformateurs, est-ce que depuis 2009, ces forces politiques ont réussi à perdurer? Est-ce qu'elles ont au contraire disparu dans le mouvement de répression qui s'est accentué ensuite avec le mouvement Femmes Vie Liberté de 2022? Est-ce qu'il y a là des réserves d'alternatives politiques qui existent, Armin Arefi?
Alors, alternative politique, je ne sais pas. Maintenant, les réformateurs, le mouvement des réformateurs, on peut l'observer à la tête de la diplomatie iranienne, le ministre iranien des Affaires étrangères, qui est plutôt donc Abbas Araghchi, qui est actuellement à Genève, qui est plutôt de cette tendance. Il ne faut pas oublier que le principal crédit des réformateurs, c'était d'avoir réussi à conclure un accord sur le nucléaire iranien. Quand on parle aux diplomates iraniens, qu'on leur dit « Non, mais attendez, réformateurs, conservateurs, c'est blanc-bonnet et bonnet-blanc », ils nous répondent « Bah, écoutez, les réformateurs ont négocié un accord, ils avaient l'aval du guide et l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 à 2018, l'Iran l'a respecté. Donc voilà notre réponse.
Sous l'égide de Mohammad Javad Zarif.
Maintenant, il y a quand même eu une bascule en Iran à la suite de la présidence de Hassan Rouhani, et notamment au moment de la répression sanglante des manifestations de 2019, qui a fait entre 500 et 1500 morts. À l'époque déjà, l'Iran avait bloqué Internet. Il y a eu à ce moment-là un divorce total de la population, notamment de ceux qui étaient encore partisans des réformes, en disant en fait ce régime n'est pas réformable, il n'acceptera pas de se réformer. Et d'ailleurs, l'un des principaux responsables de cet obstacle, de ce mur opposé à la majorité au souhait de la population iranienne, c'était notamment l'ayatollah Khomeini. Si bien qu'aujourd'hui, de grandes figures qui étaient d'anciennes figures réformatrices, comme par exemple Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix 2023, qui a été incarcéré pendant de nombreuses années, qui est aujourd'hui en permission de sortie pour raisons médicales, a totalement divorcé avec les réformes. Et d'ailleurs, dernière chose que j'avais à dire, j'ai discuté, ça c'était une interview qui m'a beaucoup marqué, un opposant de haut rang qui ne voulait pas que son nom paraisse parce qu'il serait directement envoyé en prison, donc iranien, actuellement à Téhéran, m'a dit « Écoutez, nous, on est en train de se préparer, des choses vont arriver. Effectivement, on est affolé, apeuré par les bombardements, mais on ne peut que se réjouir, c'est ce qu'il m'avait dit, on était heureux, c'est le mot qu'il a prononcé, de l'élimination de personnes qui étaient responsables de la mort de nos concitoyens. » Donc il nous disait, cet opposant, qu'on était en droit de s'attendre à des choses à ce niveau-là. Moi, vu de l'extérieur, je n'y crois pas pour l'instant.
Du côté du mouvement Femmes, Vie, Liberté, est-ce qu'on observe depuis presque 3 ans que ce mouvement spontané de rue massive populaire est née une structuration, une émergence de leaders, une structuration en courant dans l'impossibilité qu'on connaît de la répression, bien sûr, mais est-ce qu'on sait si dans les réseaux, en dehors des radars, il y a des choses qui se structurent?
C'est tout le problème, parce que de l'extérieur, on ne voit pas de figures se dessiner, on ne voit pas de mouvement concrètement. En 2009, on avait quand même les réformateurs qui étaient en chef de file du mouvement vert. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. Alors 2022 quand même est exclu. Les manifestations de 2022 ont été exclusives en ce qu'elles rassemblaient une grosse partie de la population qui n'avait pas été mobilisée forcément avant. Je pense par exemple aux Baloutches ou à d'autres ethnies qui s'étaient tenues à l'écart pendant les autres manifestations avant 2022. Aujourd'hui, elles étaient présentes. Donc il y a quand même cet esprit patriotique. J'entendais Azadekian la semaine dernière au micro de Christine O'Krent parler de patriotisme plutôt que nationalisme. Là, c'est le cas. On a une population qui veut aussi du changement, qui veut des structures compétentes et aussi des droits civiques qui soient respectés. En revanche, je ne vois pas de mouvement se dessiner. Je ne sais pas si Monsieur Arefi en voit. Et surtout, je vois des médias étrangers qui s'appuient sur des mouvements qui n'ont aucune popularité en Iran, dont les monarchistes, par exemple, avec le fils héritier de Reza Shah, qui est populaire au sein d'une partie activiste de la diaspora iranienne, certes, mais qui ne fait absolument pas consensus à l'intérieur du pays.
Vous écoutez Culture Monde, la chercheuse Sofia Marroug et le journaliste Armin Arifi sont nos invités pour parler de l'avenir du régime iranien. Comme chaque vendredi, nous retrouvons notre partenariat avec l'association Cartooning for Peace. Notre sujet vu par les caricaturistes, c'est la bulle cartooning.
Il fait le clown.
Mais on a été créé pour faire rire les hommes, mon vieux.
Assis.
Et le dessin qui nous est parvenu cette semaine est signé Manan Eyestani. C'est un illustrateur iranien exilé en France depuis 2011. Un dessin qui tente de représenter la façon dont les Iraniens et Iraniennes sont inégalement exposés aux effets de la guerre. On y voit une sorte de pièce montée en trois plateaux représentant la société. Tout en bas, la population exposée aux flammes des destructions. Des hommes et des femmes y sont représentés exprimant leur détresse et leur colère. Point levé, enfants qui pleurent. Au-dessus d'eux, l'élite militaire et religieuse, un mollah, une femme en niqab, un bourreau tenant dans sa main une corde symbolisant les pendaisons, les flammes commencent à les atteindre et enfin tout en haut, le guide suprême, apeuré, qui s'est caché sous son fauteuil. Un dessin à découvrir sur le fil du compte Blue Sky de Culture Monde et sur notre page internet. Une réaction peut-être, un commentaire à cette caricature, si elle vous inspire quelque chose, Armin Arifi.
Je pense qu'elle résume bien la situation et le sentiment actuel en Iran. Quand on parle à la population, en tout cas des membres de la population iranienne, ils sont complètement dépassés, apeurés par ces bombardements. Encore une fois, c'est Israël qui a attaqué l'Iran. L'Iran n'avait pas la bombe atomique et n'était pas sur le point de l'avoir au cours des prochaines semaines. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, il a encore répété hier sur Al Jazeera. Maintenant, et donc aujourd'hui, tous ces tenants, notamment la jeunesse, les tenants du mouvement Femmes Liberté, qui avaient réussi par eux-mêmes, par leur sacrifice, par leur courage, à obtenir par exemple de ne pas plus porter le voile obligatoire dans les grandes villes du pays, les femmes aujourd'hui sont tous en train de fuir les bombes et de tenter de se réfugier dans le nord du pays, qui d'ailleurs lui-même n'est pas épargné. Maintenant, quand on discute plus en profondeur avec les Iraniens, c'est ça aussi qui est fascinant. Pour eux, le principal responsable de la situation actuelle, c'est le régime. C'est 45 ans de fuite en avant, c'est 45 ans d'investissement sur le nucléaire iranien à répondre à des intérêts qui n'étaient liés que à son souhait de survivre et pas aux intérêts nationaux de l'Iran. Et c'est vrai que quand on parle à la population iranienne, elle n'est pas dans la rue, pour l'instant en tout cas, à défiler contre les mollahs, comme le réclame Benjamin Netanyahou. Elle est très nationaliste et souffre énormément de voir ses frontières être violées par l'aviation israélienne, mais elle tient avant tout pour responsable le régime qui a, d'après elle, comme le dit le talentueux Manan Eyestani, envoyé le pays et toute sa population de 1500 ans d'histoire et une grande civilisation dans la passe la plus totale.
Sofia Marroug, les défaillances, voire l'absence totale de protection, de système d'alerte, de sirène, qu'on a vu dénoncer sur les réseaux sociaux depuis une semaine à Téhéran et dans d'autres parties du pays. Évidemment, on peut imaginer que ça va alimenter la défiance, la colère, les protestations envers le régime.
Oui, c'est possible, parce que de toute façon, il y avait des défaillances aussi dans d'autres domaines, que ce soit le système de santé, l'administration. C'est presque pas nouveau, finalement, malheureusement. Alors, la guerre est nouvelle, et on en parlait avec Monsieur Arifi tout à l'heure, avant de commencer l'émission. C'est quand même... Il y avait quand même une intégrité territoriale qui était respectée jusqu'à maintenant. Mais c'est une défaillance qui révèle aussi tous les problèmes du régime, qui est acculé par les sanctions aussi, et qui donc ne peut assurer une protection des civils. Et est-ce qu'il le veut aussi? C'est ça la question.
L'intégrité territoriale, justement, c'est ce qui fondait toute la stratégie mise en place que rappelait Marc Semo dans son introduction, à savoir une guerre par procuration, via des alliés ou des proxys dans tout le Moyen-Orient. Cette stratégie-là vient de tomber et mise en échec de manière flagrante. Si le régime survit aux frappes, est-ce qu'il peut survivre à l'échec de cette stratégie, Armin Arifi?
C'est toute la question. C'est quand même suite à la guerre Iran-Irak imposée par Saddam Hussein, aidée par l'ensemble de la communauté internationale à l'époque, en tout cas de l'Occident, mais aussi des Soviétiques. Les gardiens de la Révolution ont mis en place une stratégie, on va dire, de défense en avançant, essayer de protéger les frontières de l'Iran en soutenant et en créant des groupes proxys, plus ou moins islamistes, chiites ou sunnites, opposés avec le fondement commun qui est l'opposition à Israël et aux États-Unis. Ce système était à son apogée à la veille du 7 octobre. En privé, comme je l'écris dans mon article aujourd'hui dans Le Point, les gardiens de la Révolution se vantaient de contrôler pas moins de 4 capitales arabes, c'est-à-dire Damas, Beyrouth et Sanaa au Yémen. Et au lendemain du 7 octobre, qui leur a échappé, visiblement d'après les informations qu'on a, les renseignements israéliens affirment que l'Iran a aidé le Hamas à s'armer au cours de toutes ces années, à le financer, mais qu'il n'était pas, d'après leurs informations, derrière l'ordre qui a été celui de Yahya Sinwar, qui a agi visiblement de son propre chef. Et depuis donc la guerre entamée par Israël à Gaza, malgré ses désastres, on a quand même un affaiblissement du Hamas, du Hezbollah. Les milices chiites ont arrêté de tirer sur l'Iran. Bachar el-Assad est tombé, les Houthis yéménites sont affaiblis, si bien qu'on assiste à un terrible retour de boomerang, un retour de flamme à l'intérieur du régime qui, donc c'était pour répondre à votre question, même s'il se maintient, sera considérablement affaibli, ce qui pourrait donner des idées à ses opposants. Encore faut-il qu'il soit organisé. Or, 45 ans de République islamique et de rouleau compresseur sécuritaire ont empêché jusqu'à aujourd'hui la moindre émergence d'une opposition structurée au régime.
Sophia Marouk, je vous laisse le dernier mot de l'émission.
Oui, et puis cette guerre par procuration, donc, qui a été formée autour de l'axe de la résistance, pour rappeler la rhétorique aussi du régime à ce propos, a été vraiment amoindrie par décembre 2024, parce que territorialement, Téhéran, ou du moins les forces Quds, donc les forces spéciales étrangères du corps des gardiens de la Révolution, maîtrisaient la Syrie qui était collée à l'Irak, qui est collée à l'Iran. Donc il y avait une continuité territoriale qui était assurée. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et même si les milices iraniennes sont encore présentes en Irak, il y a des risques que cet assemblage de milices qui forment les Hashd al-Sharbi, on les appelle, soit démantelé sous pression américaine. Le Parlement irakien est encore plutôt contre cette décision, mais c'est tout à fait possible qu'elle soit démantelée. Donc aujourd'hui, l'Iran n'a plus de continuité territoriale pour avoir un accès à la mer côté européen. Et je rappelle quand même que même si les gardiens de la Révolution ont financé le Hamas et les Houthis, ce ne sont pas des créations proprement iraniennes au départ.
اشتباهی کردم حرفاتو باور کردم چه اشتباهی کردم حرفاتو باور کردم یه روز سرد پاییز گلدون تو شکستی مثل گل ها تو گل خونه نشستی بهار میاد دوباره بازم تو رو میارن مثل گل زینتی تو گل خونه میکارن
La célèbre chanteuse iranienne Faegeh Atashin, plus connue sous le nom de Gogouche, surnommée la fille de l'Iran, exilée au début des années 2000 en Californie et qui continue de soutenir et de lutter avec les mouvements de résistance au régime iranien. Ce titre, Golbi Goldoun, date d'avant la révolution islamique de 1971. Merci beaucoup à nos deux intervenants. Armin Arefi, je rappelle que la une du dernier numéro du Point actuellement en kiosque s'intitule Le crépuscule des mollahs. On peut y lire vos contributions sur l'analyse du conflit Iran-Israël, de la guerre, pardon. Et votre documentaire Les gardiens de la révolution, Maître de l'Iran, co-réalisé avec Julie Leras, c'est à visionner sur Arte à partir du 1er juillet. Sophia Marouk, je renvoie vers votre thèse, mais qui n'est pas encore, qu'on vous souhaite être publiée sur les gardiens
bientôt.
De la Révolution. Merci infiniment. Merci Marc Sémon. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière de Culture Monde avant la pause d'été. Et lundi, c'est Julie Gacon que vous retrouvez pour une série, la dernière de l'année, sur les deltas. Il sera question du Danube, qui est au rythme de la guerre, du Nil, ou du Nil, pardon, à la conquête du désert, d'infiltration pétrolière à grande échelle dans le delta du Niger et de l'avenir des rizières dans le delta du Mékong. Et dans un instant, les midis de culture.